Bonjour, chers auditeurs. Comme chaque premier mercredi du mois, nous retrouvons l'association Claire d'Étoiles. Aujourd'hui, c'est Pascal qui va d'abord nous parler du ciel de Mars. Ensuite, nous passerons au focus du jour. Bonjour Pascal.
Bonjour Sylviane.
Que nous réserve ce mois qui va voir l'arrivée du printemps et le passage à l'heure d'été?
En effet, le dimanche 20 aura lieu l'équinoxe de printemps. Et on va voir des journées de plus en plus longues et des nuits de plus en plus courtes, jusqu'au solstice d'été qui aura lieu le 21 juin. Quant au passage à l'heure d'été, ce sera dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars. Mardi 8, 2 heures après le coucher du soleil, un gros croissant de lune a rendez-vous avec les Pléiades. Moins de 4 degrés les séparent, c'est-à-dire moins que la hauteur d'un pouce bras tendu. Si vous avez des jumelles, utilisez-les pour admirer ce magnifique amas d'étoiles. Du dimanche 13 au samedi 19, 1h30 avant le lever du soleil, Vénus et Mars sont à moins de 4 degrés l'une de l'autre, basse sur l'horizon est-sud-est. Jeudi 24 et vendredi 25 à l'aube, 1 heure avant le lever du soleil, toujours horizon est-sud-est, Saturne viendra rejoindre ce duo, dessinant un triangle isocèle aplati dont Vénus sera le sommet. Lundi 28 à l'aube, dans les mêmes conditions, ce triangle isocèle sera devenu un triangle rectangle accompagné par un fin croissant de lune.
En résumé, quelles sont les planètes qu'on pourra bien observer?
Mercure à l'aube, avant le 5, très basse sur l'horizon sud-est. Vénus à l'aube de l'est-sud-est au sud-est. Mars comme Vénus. Jupiter sera inobservable. Enfin Saturne à l'aube après le 15 à l'est-sud-est.
Bon, alors passons au focus du jour. De quoi vas-tu parler?
Je vais essayer d'expliquer ce qu'est un raisonnement scientifique et d'aborder la vérité en science.
C'est pas un peu trop théorique?
Ne t'inquiète pas. La partie théorique sera très brève et s'appuiera sur des exemples concrets, pris bien sûr dans le domaine de l'astronomie. Mais dans un premier temps, il faudra bien passer par des choses un peu plus abstraites.
D'accord, on y va. Alors, qu'est-ce qu'un raisonnement scientifique?
Un raisonnement scientifique consiste à analyser des phénomènes, à chercher comment ils se produisent, quelles en sont les causes et que peut-on en déduire.
Tu parles de phénomènes, tu peux préciser?
Ça peut être beaucoup de choses. Par exemple, quand une lance une pierre en l'air, elle retombe. Pourquoi? Comment? Le raisonnement scientifique consiste à réaliser de nombreux lancements, à analyser les résultats de ces expériences et en déduire une règle générale. Ensuite, à vérifier si cette règle s'applique à tous les cas.
Donc ça, c'est la vérité scientifique.
Dans le cas de la pierre, oui. Mais ce n'est pas toujours aussi simple.
Alors, d'autres exemples pour éclairer notre lanterne?
Pour cela, remontons un peu dans le temps, un peu moins de 2000 ans, pour évoquer l'astronome grec Claude Ptolémée, né vers l'an 100 de notre ère. À son époque, que savait-on du ciel? On voyait le soleil se lever chaque matin à l'est et se coucher chaque soir à l'ouest. On voyait la lune, les étoiles. Tous ces astres venaient régulièrement dans une même configuration et semblaient donc se mouvoir autour d'un centre qui était la Terre. Il y avait aussi des autres astres se déplaçant de façon plus irrégulière, les planètes. D'ailleurs, le terme de planète vient d'un mot grec qui signifie « astre errant ». À cette époque, on en connaissait 5, celles qu'on peut voir à l'œil nu. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.
Et quel a été donc l'apport de Ptolémée?
Se basant sur ses propres observations, ainsi que sur celles d'astronomes antérieurs dont Hipparque, né vers 190 avant notre ère, Ptolémée en déduisit que la Terre était fixe au centre de l'univers et que tout tournait autour d'elle sur des orbites circulaires. Mais son modèle ne concordait pas avec ce qu'on observait, en particulier pour Mars, qu'on voyait se déplacer dans le ciel et, à un moment, rebrousser chemin. Alors, pour faire coïncider avec la réalité observée, il imagina que les planètes se déplaçaient sur un cercle dont le centre tournait autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle des épicycles.
Et ça fonctionnait?
À peu près. Mais pour s'aligner sur ce qu'il observait, il a dû complexifier son système au point d'en faire une véritable usine à gaz. Et il faut dire aussi qu'à cette époque, la position des astres n'était pas mesurée avec une grande précision. Donc, on peut dire que sa théorie fonctionnait à peu près.
Ben, aujourd'hui, tout le monde sait bien que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse.
Tout à fait. On peut constater qu'en partant d'hypothèses totalement erronées, il est possible d'en déduire une explication plausible. Il a fallu attendre le début du XVIe siècle avec Copernic, né en 1473, pour positionner le Soleil au centre de l'univers et faire évoluer la Terre et les autres planètes tout autour sur des orbites circulaires.
Alors, ce système plus simple, est-ce qu'il était en adéquation avec les observations ?
Oui, mais de façon très imparfaite. Si le problème de Mars semblant faire marche arrière était résolu, il ne permettait pas de prévoir la position des planètes de façon précise et surtout sans dérive dans le temps.
Tu veux dire qu'il y avait un écart entre les calculs et la réalité observée ?
C'est exact, et c'est devenu de plus en plus marquant suite aux observations et mesures faites par Tycho Brahe.
Tycho Brahe, qui est-ce ?
Un astronome danois, né en 1546. Il a fait construire sur l'île de Ven le palais d'Uraniborg, lieu d'étude et véritable centre de recherche avant l'heure, équipé d'un observatoire, ce qui lui a permis de réaliser des observations d'une grande précision.
Et de ces observations, est-ce qu'il a déduit un modèle théorique plus précis ?
Non, mais c'est Johannes Kepler, né en 1571, qui avait été son assistant, et qui, en reprenant les observations de Tycho Brahe, a été l'auteur d'une nouvelle théorie. Il lui a même été reproché d'avoir volé les documents dans lesquels étaient consignées les observations de Brahe. Mais aussi, il a bénéficié d'un progrès technologique, la lunette astronomique. Il s'est servi de plus des publications de Galilée, né en 1564. Ce dernier avait repris les idées de Copernic et en avait apporté la preuve par ses observations.
Alors, la théorie de Kepler, en quoi est-ce qu'elle consiste ?
Le Soleil est toujours au centre, cependant les planètes ne se déplacent plus autour sur des orbites circulaires, mais elliptiques. De plus, la vitesse de déplacement des planètes sur leur orbite n'est pas constante. Plus une planète s'approche du Soleil, plus sa vitesse est élevée.
Donc, c'est cette théorie qui, maintenant, est la bonne.
Un peu de patience. D'abord, si Kepler a compris comment fonctionnait le système solaire, il n'en a pas déduit la cause. Pour cela, il a fallu attendre Newton, né en 1643, et sa théorie de la gravitation. Avançons un peu dans le temps. Des progrès technologiques ont permis de passer de la petite lunette astronomique utilisée par Kepler au télescope. Et, en 1781, William Herschel a découvert une nouvelle planète, plus tard nommée Uranus. Mais l'observation de cette planète va montrer que son orbite ne correspond pas parfaitement à la réalité.
Alors, nouvelle remise en cause de la théorie.
Eh bien, pas du tout. Mais il faut attendre le milieu du XIXe siècle et l'astronome français Urbain Le Verrier pour qu'elle soit confortée. Il part du principe que la théorie de la gravitation est bonne et que l'orbite d'Uranus est perturbée par la présence d'une autre planète. Par ses calculs, il détermine en 1846 la position de cette planète avec une précision de 5 degrés. Quelques semaines plus tard, l'astronome allemand Johann Gall l'observe dans son télescope. On la nommera Neptune.
Alors Newton avait raison avec sa théorie de la gravitation.
Eh bien, pas tout à fait. On approche de la fin du XIXe siècle et on constate de légères anomalies dans l'orbite de Mercure. Le souvenir de la découverte de Neptune par Le Verrier n'est pas très loin et le monde astronomique se met à la recherche d'une hypothétique planète orbitante entre Mercure et le Soleil. On lui trouve même un nom, Vulcain. Mais Vulcain reste bien caché. Il faudra attendre 1918 avec Albert Einstein et sa théorie de la relativité pour expliquer les causes de ces anomalies et enterrer Vulcain.
Ah, alors maintenant, après Einstein, on a la bonne explication.
Pour ce qui est du système solaire, oui. D'ailleurs, dans la majorité des cas, pour le calcul des trajectoires, la théorie de la gravitation de Newton fonctionne parfaitement. Ce n'est que dans certains cas particuliers qu'on doit faire appel à la théorie de la relativité, par exemple pour les satellites GPS. Allons un peu plus loin dans l'espace et regardons ce qui se passe dans les galaxies. Elles sont composées de plusieurs milliards d'étoiles qui orbitent autour de leur centre. Ce centre est généralement occupé par un énorme trou noir. Plus les étoiles sont loin du centre, plus elles doivent se déplacer lentement d'après la théorie. Or, la vitesse observée des étoiles externes est beaucoup plus élevée que celle prévue par la théorie.
Et ça s'explique comment ?
Deux possibilités. Soit on se trouve dans le cas d'Uranus, dont on a parlé avant.
Donc il faut chercher un astre manquant.
Là, il s'agit de matière manquante, mais quelque chose qu'on n'a encore jamais pu observer. La matière noire.
Pourquoi noire ? Et est-ce qu'on a pu identifier cette matière ?
Noire, parce qu'elle n'émet aucun rayonnement permettant de l'observer avec les moyens actuels. Et parmi toutes les hypothèses envisagées, étoiles mortes, trous noirs, aucune n'a pu expliquer la quantité de matière inobservée.
Et l'autre possibilité alors ?
Là, c'est comme pour Mercure. En l'absence de matière noire, il faudra trouver une nouvelle théorie gravitationnelle. Ce serait une véritable révolution, identique à celle de Copernic il y a 5 siècles.
Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ?
Il y a bien des pistes, mais rien de vraiment concluant. Peut-être de nouvelles observations, en particulier avec la mise en orbite du télescope géant James Webb, aideront à ces recherches.
Finalement, plus on pense tenir la vérité, plus elle semble s'éloigner.
Oui, mais quand même avec un écart de plus en plus faible entre la théorie et l'observation.
Alors, sur ces paroles optimistes, je donne rendez-vous à nos auditeurs dans un mois pour une nouvelle émission de Clair d'Étoiles sur Fréquence 7.